suis sur la liste de la Fédération Baptiste, dans l'annuaire Baptiste, mais je n'ai pas de paroisse. Je suis ce que les protestants, les réformés appellent un prédicant. C'est-à-dire un prédicateur itinérant, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je n'ai pas de paroisse et je n'ai pas de... J'ai pas de troupeau, donc je ne suis pas un berger. Donc, le Seigneur a mis dans notre cœur de rester dans ce pays. Et quelqu'un m'a dit, mais un jour, mais vous allez retourner dans votre pays d'origine. Mais je dis, mais pourquoi? Notre cœur est ici, en France. On aime ce pays, on voit des changements qu'il y a eu depuis des années. Quand nous habitions en Commenterie, s'il y a des gens qui habitent près d'Évreuil, des villes comme ça, vous connaissez Commenterie parce qu'il y a l'odeur qui vient de Commenterie qui passe dans la région, qui est connue. Donc, on habitait 2 années à Commenterie avant de monter dans le nord Pas-de-Calais. Donc, moi je pense, et là je commence à parler de sujets qu'on m'a demandé de faire, et je pense que nous avons des convictions, et quelquefois nous cherchons dans la parole de Dieu à trouver des versets pour soutenir nos convictions. Et je ne pense pas que c'est la bonne manière de se trouver devant la parole de Dieu. Parce que dans votre évolution, comme dans la mienne, j'espère et je pense que vous avez évolué dans votre compréhension et de la personne de Dieu et de l'importance de sa parole dans ta vie. Je sais qu'après 40 ans de vie chrétienne, la compréhension que j'ai de Dieu aujourd'hui est différente de la compréhension que j'avais quand j'ai rencontré le Christ à l'âge de 20 ans. Donc, ce n'est pas que lui l'a changé. C'est que moi, j'ai changé. Si je vous demande la question vis-à-vis de votre Père terrestre, est-ce que votre compréhension de votre Père terrestre est la même compréhension que vous aviez quand vous étiez encore à l'école primaire? Non, votre Père terrestre a évolué, changé. Mais notre Père céleste ne change pas. Mais ça ne veut pas dire que notre compréhension de lui ne va pas changer. Et quand nous venons à la parole de Dieu, nous devons prendre les risques que nos convictions soient mises à l'épreuve par ce que dit la parole de Dieu. Plutôt que de dire, mais la parole doit changer, ou est-ce que c'est moi qui change? Moi, je dois changer. Donc, ma compréhension de Dieu lui-même et de sa parole va changer. Et le problème, c'est que notre formation va influencer notre manière d'aborder la parole de Dieu. Notre culture va avoir un impact sur nous. N'est-ce pas? Quelqu'un de culture africaine qui se convertisse a une autre manière de voir la parole de Dieu. Par exemple, si on parle à certains Africains de blancs comme la neige, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Parce qu'ils n'ont jamais vu la neige. Ce n'est pas une reproche, hein. Mais donc, notre culture d'où nous venons va avoir un impact, notre manière de voir et de comprendre la parole de Dieu. Donc, quand nous avons été formés par une culture qui est fortement influencée par la philosophie grecque, quand nous venons à la parole de Dieu, notre manière d'analyser, de comprendre et de rationaliser la parole est influencée par ces origines que nous avons. Et dans la société dans laquelle nous vivons, qui est une société qui dans les 15 dernières années, a changé énormément. Je m'appelle la première fois à la gare de Lyon, quand j'ai vu un petit vieux, bon, j'ai 66 ans, mais pour moi c'était un petit vieux, qui était là avec son portable, en train de téléphoner pour dire « Je suis bien arrivé à la gare, par Dieu !» Je dis « Mais le monde a changé !» Quand nous sommes arrivés en France il y a 37 ans, on n'avait pas de téléphone pendant 3 ans. Et quand nous sommes arrivés, la poste a fait grève. Donc nos parents n'ont pas su pendant 3 semaines si on est arrivé sain et sauf. Vous imaginez ça aujourd'hui? On aurait envoyé des hélicos, le SAMU, pour voir si... Avec 2 enfants. Donc il y a des choses qui changent dans la culture dans laquelle nous vivons. Et la culture dans laquelle nous vivons veut vraiment qu'on ait une connaissance très très large, mais peu profonde. Dans tout, sauf dans les spécificités professionnelles que nous avons. N'est-ce pas? Dans le monde professionnel, on est de plus en plus spécialisé. Il y a des choses que vous pouvez aborder, même si on parle juste de cette machine-là. Il y a combien de métiers autour de cette machine-là aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 20 ans? Moi, je me rappelle, j'avais des amis qui travaillaient avec des ordinateurs, et les ordinateurs, à l'époque, devaient être dans une salle climatisée, où la température était toujours au même niveau. Aujourd'hui, vous pouvez prendre ça avec vous, vous pouvez le mettre dans le train, vous pouvez... et les métiers vis-à-vis de ça, et on est des spécificités, mais d'une manière générale, sur des choses, la connaissance est large, mais peu profonde. On appelle ça le postmoderne. On est postmoderne, mais je vous assure, ne vous inquiétez pas, le postmoderne est déjà dépassé. On est maintenant dans le hypermoderne. On n'est plus dans la société de consommation, on est dans la société de hyperconsommation. Donc les choses ont évolué et changé. Donc nous baignons dans cette culture. Donc quand nous venons à la parole de Dieu, nous venons avec cette culture. Donc notre approche vis-à-vis de la Bible est très différente. Je suis frappé, ne vous sentez pas visé, ne prenez pas ça comme une critique. Si vous êtes là, vous n'avez pas de Bible. Mais je suis frappé par de nombreuses fois que je vois qu'on n'a plus sa Bible. Ou on l'a pas. Attention, ce n'est pas une critique. Mais je constate qu'il y a des changements radicaux dans la manière de faire et la manière de voir. Donc quand nous venons, moi j'ai pris une petite parce que de temps en temps je prends l'avion et c'est plus pratique, quoi. Avec Ryanair, il ne me permet pas de prendre des grosses bibles. Donc ça ne veut pas dire que quand nous venons avec notre culture, que nous sommes figés sur les choses qui ont été vécues ou comprises. Vous êtes d'accord avec moi que les réformateurs ont changé beaucoup de choses dans la vie de l'Église, dans la compréhension de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Des gens comme Luther, des gens comme Calvin ont fait des changements dans la compréhension de la parole de Dieu. Mais on ne peut pas rester à leur niveau de compréhension. Et il y a des choses que nous avons encore découvertes, surtout qu'il y a des gens d'Église baptiste, que Luther et Calvin n'avaient pas découvertes. Et il y a des vérités qui étaient là dans la parole de Dieu, mais qui ont été quand même mises de côté. Et nous avons la question de l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans la Bible, dans le premier chapitre, verset 2, on parle de l'Esprit de Dieu. Genèse, chapitre 1, verset 2, on parle de l'Esprit de Dieu. Et à la fin de l'Apocalypse, l'Esprit et l'Épouse disent « viennent ». Donc, on parle de l'Esprit de Dieu d'une manière... dès le début jusqu'à la fin de la parole de Dieu. Ici, c'est l'introduction que je vous donne. Parce que, je vais expliquer quelque chose après, mais... l'action de l'Esprit Saint est dans l'Ancien Testament. On voit l'action de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. On le voit aussi dans le Nouveau Testament. Mais il n'agit pas de la même manière. Pourquoi il n'agit pas de la même manière? Parce que nous ne sommes plus sous la même alliance. Vous avez une Bible, vous avez deux testaments. Oui. Il y a deux testaments dans la Bible. Mais heureusement, Dieu n'est pas mort. Mais les deux testaments, les deux alliances sont différentes. Parce que la relation avec Dieu est différente. Parce que dans l'ancienne économie, tout passait par des intermédiaires. Tout passait par des gens qui étaient mis à part comme intermédiaire, entre Dieu et les hommes. Je peux avoir un verre d'eau? Entre Dieu et les hommes. Donc, dans l'Ancien Testament, vous avez les trois ministères qui étaient reconnus, le roi, le prophète et le sacrificateur. Le roi était celui qui gouvernait le pays, qui gouvernait le peuple de Dieu. Le prophète était celui qui parlait au peuple de la parole de Dieu. Et le prêtre était celui qui parlait à Dieu de la part du peuple. Donc, et ces trois ministères, si vous avez fait un peu de théologie, vous trouvez ça dans la personne de Jésus-Christ. Ces trois ministères de l'Ancien Testament. Et quand les choses sont venues avec la Nouvelle Alliance, ces choses ont été mises de côté. On ne dira plus aux uns aux autres. Mais tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, c'est dit dans l'Ancien Testament. Donc nous avons une possibilité d'une connaissance personnelle de la présence et de la présence et la personne de Dieu. Avant, non, il fallait passer, même le roi David, il devait passer par les prophètes pour consulter Dieu. Il y avait Nathan, il y avait Gad, il y avait d'autres qui étaient des moyens de communication pour David pour consulter Dieu. Donc, il y a, si on peut aller un peu plus loin, non, merci beaucoup. Le fait de livre des actes, les actes des apôtres, il y a certains commentateurs qui ont dit il faut mieux appeler ce livre l'acte du Saint-Esprit. L'acte de l'Esprit. Parce que on voit dans le livre des actes toute l'action du Saint-Esprit, comment les choses démarrent par lui. Nous avons des anciens livres qui parlent de l'Esprit Saint. Je me rappelle avoir pris un livre de théologie gros comme ça. Et au début, il disait, l'Esprit Saint est une personne très importante. Mais quand j'ai lu, je suis tourné vers les pages qui parlaient de l'Esprit Saint, il y avait 10 pages sur sa personne, sur un livre gros comme ça. Je dis, mais bon, s'il est si important comme ça, pourquoi on lui donne que 10 pages? Mais certains vont dire, non, il est très effacé, il est venu pour nous rappeler tout ce que Jésus a fait. Non, mais il est Dieu. Il est Dieu. Donc, on y viendra. Donc, nous sommes dans une alliance qui est une alliance de grâce. Donc, nous, pardon, le danger pour nous, c'est souvent de baser notre compréhension sur nos expériences. Je ne suis pas du tout contre l'expérience. L'expérience, mais l'expérience n'est pas le meilleur enseignant à avoir. On peut avoir des expériences qui peuvent nous faire du bien. J'espère que je suis avec des gens qui sont à peu près normaux quand même. Et vous avez un jour ou l'autre vécu le coup de foudre. Ça existe encore pour la jeunesse, non? Ça existe encore que... Le coup de foudre, ça existe. Mais vous savez, le coup de foudre... Si vous n'avez jamais vu un arbre qui a un coup de foudre, ce n'est pas l'année où il va porter le plus de fruits. Il a vécu une expérience qui lui est venue comme ça, de l'extérieur. Mais on ne peut pas baser la vie sur une expérience. Mais les expériences peuvent nous aider à comprendre certaines choses. Si vous avez vécu dans le sens inverse de la joie, si vous avez vécu des moments de dépression, de déprime, on ne peut pas les expliquer toujours avec la logique. Ce n'est pas toujours logique que quelqu'un soit déprimé. On dit à quelqu'un qui est déprimé, regardez ce que vous avez. Oui, je sais que j'ai ça. Mais t'as ta famille, t'as ça. Mais ce n'est pas ça qui enlève l'expérience que la personne est en train de vivre. Donc, quand nous venons à la parole de Dieu, quand nous venons, nous pouvons avoir des expériences, mais nous ne pouvons pas bâtir une théologie sur notre expérience, ni sur l'expérience des autres. Parce que Dieu utilise chacun de nous d'une manière différente. Parce que vous et moi, nous sommes différents. Il paraît que, avec notre ADN, on va trouver tous les cheveux que je perds ici, si on veut les trouver. Et on peut prouver que c'est mes cheveux et pas les tiens. Pour toi, il n'y a pas de problème parce que la longueur va montrer tout ce que... Donc, on peut trouver que nous sommes des individus, nous sommes des personnes différentes. Il y a des gens ici qui ont plusieurs enfants. Oui? Est-ce que vos enfants sont identiques?
Oui.
Attention, c'est moi, enregistré. Hein. Moi, je ne suis pas comme Laurent Blanc, je sais que c'est enregistré. Donc, non, mais c'est un peu vache s'il avait bon. Donc, les enfants que vous avez ont été conçus du même couple, mais ils ne sont pas identiques parce qu'ils ont leur identité propre. Vous êtes unique dans ce que vous êtes. Il n'y a pas deux personnes comme toi, pas deux. Et quand tu viens au Père, tu ne viens pas de la même manière que ton frère ou ta sœur. Et ton papa ne te regarde pas de la même manière qu'il regarde ton frère et ta sœur. Il peut nous prendre d'une manière égalitaire. On est dans le pays quand même, liberté, égalité, fraternité. Mais on peut être abordé d'une manière égalitaire, mais le comportement sera différent en fonction de l'enfant qui est devant nous, n'est-ce pas? Avec certains enfants, il faut lever la voix. Avec d'autres, si vous levez la voix, ils vont s'enfermer dans leur chambre pendant 3 jours. Et il ne faut pas. Et parce que nous sommes chacun de nous différents dans notre manière d'être et notre manière de faire. Donc, quand nous venons à la parole de Dieu, et quand des gens ont vécu une expérience qui leur est propre, on ne peut pas fonder une théologie sur cette expérience-là. Je donne juste un exemple, ce qui me vient à l'esprit là, dans le livre des Actes. Tu peux même prendre la Bible. Actes chapitre 10. Verset 9. C'est la question de la conversion de Cornaï. Acte 10, verset 9. Le lendemain, comme nous étions en route, il s'approchait de la ville. Pierre monta sur la terrasse vers la sixième heure pour prier, c'est-à-dire à midi. Parce que les Juifs comptent à partir de 6 heures. Donc la troisième heure, c'est 9 heures. Sixième heure, c'est midi. Pour prier. Il eut faim et voulut prendre la nourriture. Pendant qu'on lui préparait, il eut une extase. Je ne sais pas pour vous, mais souvent j'ai l'extase après le repas. Mais là, Pierre, il a l'extase. Mais est-ce qu'à cause de ça, on peut dire que chaque fois qu'il y a une révélation qui vient de Dieu, Pierre a dû vivre l'extase? Non. Mais est-ce qu'il faut dire non plus, comme j'ai lu dans un livre, que si vous voulez me demander les coordonnées, je vous donnerai après, pour que ça ne soit pas enregistré, mais je vous donnerai après. Il y a quelqu'un qui dit, il n'y a plus d'extase. Bon, Pierre l'a eu, il n'est pas le seul, mais il a eu. Donc, mais on ne peut pas fonder une théologie sur le fait qu'il faut monter à midi sur un toit et là vivre en extase. La question de la vie spirituelle que vous avez, le moment que vous avez changé de bord, vous avez changé de vie, vous êtes parti de ce qui était le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que vous vous êtes converti. À ce moment-là, qui parmi nous a vécu ça de la même manière? Est-ce qu'il y a deux personnes qui ont vécu ça de la même manière? Je suis sûr que si on demandait à tout le monde, on dirait, ben certains vont dire, je suis né dans une famille chrétienne, puis un jour je me suis rendu compte vraiment que j'étais chrétien. Et quelqu'un d'autre qui dit, moi je n'avais rien à faire avec Dieu, puis un jour quelqu'un me parlait de Dieu, et puis pouf, boum, j'ai eu la révélation. Et on va tous avoir des choses différentes. Certains vont venir à cause de la peur, d'autres à cause de la maladie, d'autres à cause des épreuves dans la vie. Et ensuite, la conversion de chacun de nous est différente. Mais dans la société d'aujourd'hui, on veut que tout soit systématique. Donc la conversion, c'est A, B, C. Ça y est. Lève la main. Baisse la main, je l'ai vu. Ça y est, vous êtes sauvés. Non, c'est jamais dans la vie spirituelle, les choses ne sont pas systématiques. Et on a essayé de faire ça avec la dimension du Saint-Esprit. On a dit, bon, pour le Saint-Esprit, il faut que vous soyez dans une situation d'attente et que vous recevez le Saint-Esprit, ça y est, ça doit tomber sur vous comme ça. Et vous devez, dans certains milieux, ils vont dire, vous devez commencer à parler en langue, ça y est, vous êtes baptisé de l'Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et on essaie de systématiser ça parce que certains ont vécu comme ça. Mais on ne peut pas. On ne peut pas dire que c'est comme ça que les choses se passent. Parce que pour chacun de nous, nous sommes différents. Et Dieu a ses moments pour nous rencontrer. Quand est-ce que Dieu a rencontré Jacob? Est-ce que c'est quand il est parti de la maison? Il a fui parce qu'il a fui son frère. Parce qu'il avait le droit d'aînesse, il avait pris l'autre droit de lui. Il est parti. Il est parti, pendant combien de temps? Au moins 20 à 21 ans, il était parti, Jacob. Et quand il est revenu à la maison, Esaü l'a vu. Et c'est en revenant à la maison que Jacob, qui avait vécu l'échelle, vous vous rappelez l'histoire de l'échelle, il a eu l'échelle en partant. La vision des anges qui montaient, qui descendaient. Il a eu cette vision. Dieu était avec lui. Mais la vraie changement dans sa vie, c'était quand il est revenu, 20 ans plus tard, et Dieu, il a lutté avec Dieu, et Dieu a touché sa hanche. Et il a changé son nom. Il a dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Que nous, on aurait dit, bah, c'est parce qu'il a vu, il a vu l'échelle, ça y est. Donc tout le monde doit voir les échelles. Non, chacun va vivre la dimension de Dieu, la dimension de vie avec lui, d'une manière différente. Moi, je suis de plus en plus touché par le fait que ma vie personnelle avec Dieu est comme la vie du couple. Et la vie du couple est une vie qu'il faut entretenir. N'est-ce pas? Il faut faire la vidange, il faut changer les plaquettes, il faut entretenir. Et si on n'entretient pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, et c'est exactement la même chose avec la vie avec Dieu. Il y a cette question d'entretien et de proximité avec lui. Les choses vécues sont spécifiques aux personnes et aux situations. Il y a un livre qui est écrit sur la brèche. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent le livre sur la brèche. C'est le livre de Rhys Howells, intercesseur. C'est un Gallois. Et lui, quand il priait pour les gens qui étaient malades, il demandait, dans le livre, vous pouvez le lire, il a demandé que les symptômes de la maladie viennent sur lui pour que la personne soit guérie. Je dis, oh là, ça, je ne vais pas voir. Mais est-ce que c'était mauvais? Non, c'était sa manière de faire à lui. Non, on ne peut pas copier la manière de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que je fais comme lui que je peux vivre exactement comme lui. Et c'est ça la chose qui est très très intéressante. Si nous faisons les mêmes démarches, moi j'avais un ami quand j'habitais dans le Nord qui prenait le train parce qu'on avait des réunions de comité à Paris, dans le magasin de CLC. On se rencontrait à côté de Beaubourg. Le lundi, et lui il montait dans le train. Et chaque fois qu'il était dans le train, il avait quelqu'un avec qui il parlait de Jésus. Et moi, chaque fois que j'étais dans le train, je lisais ma Bible. Et j'essayais de parler avec les gens, ça ne les intéressait pas. Mais lui, il donnait des adresses, il donnait des nouveaux testaments. Et il faisait. Et moi, j'ai essayé de faire, ça ne marchait pas. Et lui, il n'avait pas de problème pour le faire. Donc, je viens au sujet. Vous m'avez posé des questions auxquelles il faudrait une année. J'ai amené des questions avec moi. Il faut une année pour répondre. Peut-être il faut inviter Evert Van de Poel ou Richard Gélin ou quelqu'un comme ça. Les choses ont changé. Puis, j'ai l'impression d'être comme quelqu'un qui était invité pour parler de comment tailler les rosiers. Et puis vous me dites, comment il faut dresser des arbres? Comment est-ce qu'il faut planter des pelouses? Comment est-ce qu'il faut les faire des légumes? Et tout ça, le sujet est tellement vaste que je peux pas. Donc, j'ai fait quelques réponses pour quelques-unes des questions, mais et sérieusement, hein, j'ai essayé. Mais c'est de parler de la Trinité, de parler de, est-ce que... On sait quand on a l'Esprit Saint en nous. Est-ce qu'on sait que c'est quoi pécher contre Saint-Esprit? C'est quoi pécher contre Saint-Esprit? C'est quoi blasphémer contre Saint-Esprit? Là, j'ai la réponse pour celui-là. Je vous le donnerai après. Mais il y a des choses que... je ne peux pas entrer dans cette idée de faire les choses parce que les choses sont trop importantes pour faire ça en vitesse. Et d'effleurer juste, mais d'aller en profondeur. Donc, nous n'avons pas le temps d'aborder tous les... Même le sujet du ministère et de dons. Là, c'est une chose, je suis en train de... Si vous avez le dernier cahier de l'école pastorale de Massy, il y a un article qui est fait par Thomas et c'est Timothée Minard. Et malheureusement, il utilise la Nouvelle Bible Second. Si vous avez la Nouvelle Bible Second, bon courage. J'ai rien contre, mais si, de quelques fois, j'ai des problèmes avec. Par exemple, si je vous dis, vous êtes tous des moutons, comment est-ce que vous comprendrez ça? Vous êtes tous des moutons. Comment est-ce que vous comprendrez ça? C'est un compliment?
Non.
Mais dans Jean 10, ils ont traduit, mes moutons connaissent ma voix. Et je dis, mais est-ce que c'est des étrangers qui ont fait ça ou quoi? Parce que moi j'ai une compréhension. Bon. Et puis, quand il parle de don de prophétie, il dit le don de parler en prophète. Dans 1 Corinthiens 12. Le don de parler en prophète. Moi je dis, ça, ce n'est pas la même chose que pour moi que le don de prophétie. Quand il dit d'évangéliste, c'est l'annonciateur des bonnes nouvelles. Oui, ça peut aller. Mais si je dis que je dois évangéliser, ça ne veut pas faire de moi un annonciateur de la bonne nouvelle, de la même manière que ça veut dire un évangéliste. Si je dis que vous devez prendre soin des uns des autres, ça ne fait pas de nous tous des bergers. Mais nous devons prendre soin des uns des autres. Et le berger, c'est celui qui prend soin de ses moutons. Donc, dans cette traduction, d'ailleurs, pour beaucoup de choses, j'aime bien cette traduction, mais pour ça et pour certaines autres choses, comme la résurrection, il ne parle pas de la résurrection, que Christ est ressuscité, il est dit, c'est réveillé d'entre les morts. Mais pour moi, le mot résurrection a une telle importance dans le christianisme, parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc, j'arrête de critiquer, mais, parce que je ne suis pas du tout à la hauteur de ces gens qui ont traduit ça. Mais cette idée de dire que la compréhension qu'on a des choses, la manière de voir, il faut voir certaines choses. Donc moi, je vais passer plus de temps à parler sur les dons. On m'a demandé de parler sur les dons spirituels. On parlera aussi de comment les utiliser, comment les profiter. Je veux que ça soit clair que les dons spirituels sont des dons. C'est pas les qualités que nous avons. C'est pas des sensibilités que nous avons. C'est des dons. Et le don est différent du ministère. Pour moi, le ministère, on est né avec un profil de ministère. Je m'explique. Vous êtes né avec un profil de ministère. Revenons aux enfants. Mais si vous n'avez pas encore des enfants, ça va vous aider pour plus tard. Est-ce que parmi vos enfants, vous avez l'un ou l'autre qui prend soin des autres? Un qui tombe et l'autre qui va. Là, il y a déjà un profil de berger et de bergère. Et là, vous avez des enfants qui reviennent et puis ils ont un petit camion. Et tu dis, mais le camion, tu as eu où ça? Ah non, mais tu la vieille voiture que j'avais, qui avait deux roues en caoutchouc qui manquaient, j'ai changé pour ça. Donc là, vous avez un évangéliste en puissance. Vous avez les autres qui disent, mais asseyez-vous et moi je vais vous conduire. Là, vous avez quelqu'un qui a un leadership né. On est né avec des prédispositions à certaines choses. C'est comme vous et moi. Dieu nous a connus avant qu'on soit conçu dans le sein maternel. Jérémie chapitre 1. Hein? Avant que tu fusses conçu dans le sein maternel, je te connaissais et je t'ai établi prophète pour les nations. Dieu t'a connu avant les premières échographies. C'est extraordinaire. Et on est né avec un profil. Et ce profil-là, quand on vient à la conversion, ce profil est libéré pour être utilisé par Dieu. Sinon, c'est utilisé dans le monde. Vous me suivez ? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Bon, moi, c'est ma compréhension des choses. Quand on voit l'apôtre Paul, Saul de Tars, c'était un zélé dès le début. Ce n'est pas sa conversion qui a fait de lui un fonceur. Il était fonceur avant. Il n'a pas dit, tiens, moi, je suis chrétien, je vais foncer. Non, c'était un fonceur dès le début. Il était intraitable. Il était très, très exigeant, surtout. Et cette exigence, après sa conversion, est venue pour l'évangile, heureusement. Et quand est-ce que vous pensez que quand vous venez à la conversion, que Dieu arrive dans le ciel et dit, tiens, il y a un nouveau. Amène-moi son dossier, on va voir son CV, si on va voir comment on va pouvoir l'utiliser. Les choses dans la vie sont là pour nous former, ou nous déformer, ou nous réformer. Et les épreuves de la vie peuvent nous former pour être utilisées par l'Esprit de Dieu. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce que dans les dons spirituels, il y a certaines prédispositions du cœur qui vont venir. Par exemple, si on prend le don de guérison, il y a certains qui vont vouloir que les gens soient guéris. Il y a d'autres qui ne vont pas vouloir voir les malades. Il y a des gens que si jamais ils voient du sang, bim. Il y a d'autres que quand ils voient quelqu'un qui est mal, il y a une compassion qui monte. Et c'est qui va exercer le don ? C'est qui est plus apte à recevoir le don de guérison pour la personne ? C'est la personne qui est prise dans ses tripes pour aider. Et je ne parle pas juste de côté de maladie psychosomatique, que le fait qu'il y ait quelqu'un à côté qui peut encourager, que ça amène à une guérison. Je parle d'une intervention de Dieu, mais la personne qui est prédisposée pour ça va le faire. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait des anciens qui s'asseyaient à la porte de la ville et qui étaient plutôt le Parlement. C'était le conseil municipal. Ils étaient à la porte de la ville. Et les anciens dans le Nouveau Testament, c'est pas la même chose. Regardez ce que Pierre dit aux anciens dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, Paul avait un ministère d'apôtre. Pierre avait un ministère d'apôtre. L'apôtre Pierre. Mais là, il dit, moi, ancien. Ça ne veut pas dire qu'il avait une barbe qui venait jusque-là, et que c'était un petit vieux. Ça veut dire qu'il exerçait la fonction d'ancien, tout en ayant le ministère d'apôtre. Vous me suivez, non ? Donc, parce que pour moi, l'ancien dans le Nouveau Testament, c'est une fonction auquel on aspire. 1 Timothée 3, Paul dit, si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, il donne les qualités nécessaires pour un ancien. Mais s'il n'y a pas l'aspiration, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on devient ancien. On peut devenir ancien combattant, mais on ne devient pas ancien dans la vie du peuple de Dieu. Et l'Ancien Testament, c'était des gens âgés de la ville. Que dans le Nouveau, c'est une fonction pour faire quoi ? Regardez ce qu'il dit. Ancien comme témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont échoué en partage, mais en devenant des modèles du troupeau. Je m'excuse, mais là où j'habite, le berger n'est pas un modèle pour ses brebis. Il est impossible qu'il soit un modèle pour ses brebis. Parce que lui, il n'a que deux pattes, et elles ont quatre. Et d'ailleurs, elle vient juste être tondue. Je les ai vus ce matin, ils sont passés. J'ai dit aux bergers qui passaient, parce qu'il y a, comme je le dis, il y a 120 brebis dans le village. Il y a plus de brebis que d'habitants. Et j'ai une livraison de fumier tous les jours pour mon jardin. Quand vous avez 120 brebis qui passent devant, je vous assure, ça laisse des traces. Hein. D'ailleurs, si vous avez un ministère de berger, je vous conseille de marcher devant le troupeau. Parce que si vous marchez derrière, vous marchez dedans. C'est très important. C'est symbolique, mais c'est important. L'ancien dans le Nouveau Testament n'est pas quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Le berger n'est pas comme les moutons, n'est pas comme les brebis. Parce qu'il n'est pas de la même nature. Mais nous sommes de la même nature. Même si on est ancien. Et dans le Nouveau Testament, il y a cette idée d'être un modèle pour les autres. Donc, pour les passages dans la Bible qui parlent de manière précise des dons spirituels et du Saint-Esprit, c'est surtout dans le livre des Actes, où on voit les choses qui sont faites, on voit les dons qui sont exercés. Vous connaissez bien le passage quand Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière, et puis il y a l'homme qui est là, à la belle porte. Vous connaissez le passage, nous avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est dans Actes chapitre 3. Là, il y a un don de guérison qui vient. C'est pas dit d'une don de guérison. Parce que ça faisait partie de leur vie naturelle, surnaturelle. Mais pour la plupart du temps dans la parole de Dieu, on voit des choses qui s'opèrent. Mais quand nous venons aux Épîtres, nous avons principalement dans l'Épître aux Corinthiens, l'enseignement sur les dons spirituels. Et c'est surtout le chapitre 12, 13 et 14. Quand Paul parle aux Corinthiens, c'est intéressant pour moi, parce que comme j'ai dit au début, nous sommes formés, nous, par une philosophie grecque, par la philosophie grecque. Et l'église de Corinthe était en plein dedans. Corinthe, c'était en Grèce. Donc, ils étaient formés là-dedans. Et Paul dit dans chapitre 1, verset 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7, « Ainsi donc, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il ne vous manque aucun, et le mot là, c'est le charisme. Il ne vous manque aucun charisme, aucun don. Et il commence à parler des chrétiens, il commence à parler de ce qu'il a entendu de l'église de Corinthe. Et il parle des difficultés qu'ils avaient, des problèmes de désordre, problèmes de nourriture. Et quand il arrive au chapitre 7, verset 1, il dit ceci, chapitre 7, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. « Passant à ce que vous m'avez écrit. » Donc là, à partir du chapitre 7, il est en train de répondre aux questions qui lui sont posées. Un peu comme les questions que vous m'avez posées, mais comme je n'aurai pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc, Paul est en train de répondre aux questions que les gens ont posées. Donc, quand nous arrivons au chapitre 11, la question de la scène, il est en train de parler parce qu'il y a des abus. Il y avait des gens qui venaient, qui mangeaient, et qui vomissaient, et puis à côté, il y avait des chrétiens qui n'avaient pas de quoi manger. Il y avait des abus dans la scène. C'est pourquoi il a dit « Attendez-vous les uns les autres » quand il parle du repas du Seigneur. Il est en train de mettre les choses en règle vis-à-vis de la scène. Pourquoi il parle de la scène? Parce qu'il y avait des problèmes. Et pourquoi il parle dans chapitre 12, 13 et 14 des dons spirituels? Parce qu'il y avait des problèmes, des difficultés. Donc quand il écrit 12, 13 et 14, il est en train de répondre aux questions. Mais nous n'avons pas les questions. Nous n'avons que ses réponses. Et il dit ceci, chapitre 12, 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les spirituels, ou les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. On peut posséder quelque chose et être dans l'ignorance. Je m'appelle la première fois que j'ai eu entre mes mains un ordinateur. Je l'avais. Mais on m'avait dit que Windows, on ne ferme pas Windows, on ne ferme pas les Windows, on fait quoi?
On le met en veille.
On met en veille. Et on a découvert qu'avec un ordinateur, il y a une souris. Et que les femmes peuvent mettre leurs mains sous la souris. Et ça ne pose pas de problème. Et j'ai appris avec l'ordinateur qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire et il y a des boutons qu'il ne faut pas toucher. Et puis j'ai appris, je l'avais, mais j'étais dans l'ignorance. Et ce n'est pas parce qu'on a reçu quelque chose qu'on est dans la connaissance de comment l'utiliser, comment l'exploiter. Regardez la manière dont les gens aujourd'hui, dans notre société, vivent en ignorance. C'est-à-dire, certains ignorances, ils ne veulent pas savoir. Avec mon épouse, on revenait d'Espagne, je crois que c'est de l'Espagne. Et on est passé par la douane, et puis il y avait quelqu'un, il y a plusieurs années de ça, qui a acheté un paquet comme ça de cigarettes. Et c'était marqué en français, « Fumer tue ». Mais en gros. Et j'ai pas eu le courage, mais je disais, c'est un cadeau pour la belle-mère. Donc, ils savaient, mais est-ce qu'ils vivaient, ils ne voulaient pas, ils savaient que ça pourrait se faire. Je ne dis pas que c'est automatique, hein, mais ça peut s'accomplir comme ça. Donc, il y a des connaissances dans l'ignorance, quelquefois, il y a des choses que nous voulons ignorer. Il y a d'autres choses que nous sommes dans l'ignorance, mais nous pouvons apprendre. Et Paul dit plusieurs fois, il dit ça dans le chapitre 12, il dit ça dans le chapitre 10, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez, vos pères ont tous été sous la nuée. » Donc il utilise ce mot pour parler du fait qu'on peut avoir des choses et être dans l'ignorance. Et pour moi, les passages ici, 12, 13 et 14, sont écrits parce qu'il y avait des problèmes, des difficultés avec des choses. Pourquoi on reparle du nucléaire d'une manière très importante de nos jours? Parce qu'il y avait des problèmes avec, mais des gros problèmes. Mais l'autre côté du monde. Donc, les dons sont-ils donnés pour un temps? On peut lire dans 1 Corinthiens 13. C'est pas, vous aimez le sandwich, moi j'aime bien le sandwich de 12, 13 et 14. Il y a des gens qui aiment le sandwich, pour moi c'est le chapitre 12 et 14 et entre les deux. Il y a certains qui veulent juste le jambon, juste le chapitre 13. Il y a d'autres qui sont végétariens, donc ils ne prennent que le 12 et 14. Non, il faut prendre l'ensemble de ces passages. Il faut prendre l'ensemble de la parole de Dieu, même si ça nous pose des problèmes pour comprendre. Parce que notre compréhension peut évoluer. Et là, dans le chapitre 13, 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour, l'hymne à l'amour. Moi, je trouve ce passage extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. C'est souvent lu à des mariages, mais je trouve que c'est dommage que quand la personne a fait les chapitres de la Bible, qu'il les a fait quelquefois où il les a fait. Par exemple, le chapitre 13, pour moi, c'est dommage qu'il a coupé juste au verset 1. Il aurait dû aller chapitre 12, verset 31. Parce qu'il dit dans chapitre 12, 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais vous montrer encore une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. » Et puis quand il arrive au chapitre 13, verset 13, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais le plus grand, c'est l'amour. Point. À la ligne. Fini. » Mais non! Quand le texte était écrit, ce n'était pas écrit avec les chapitres. On devrait lire, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais le plus grand c'est l'amour, recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Mais le problème c'est quand on arrive à chapitre 13, fini. Le plus grand c'est l'amour. Mais il dit, recherchez l'amour. Et c'est quoi rechercher l'amour, Bernard?
C'est qu'il faut que tu m'aimes. Que tu m'aimes, je suis en recherche, je vais prendre l'amour.
C'est pas rechercher l'amour, ça c'est rechercher l'amour. La Bible nous dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour, c'est quelque chose qu'on donne. D'ailleurs, avec l'expérience, vous allez découvrir que l'amour est plus facile à donner qu'à recevoir. C'est comme les cadeaux. Vous aimez quand quelqu'un vous donne un cadeau. Il n'y a rien de pire. Vous arrivez avec un cadeau, vous dites, ah, c'est pour toi. Ah, mais il ne fallait pas faire ça. Non, je vais le ramener au magasin. On a du mal à recevoir, n'est-ce pas? Et même l'amour, on a du mal à... Donc quand il dit rechercher l'amour, c'est pas de d'être aimé, mais c'est d'aimer l'autre. Et d'aimer l'autre, c'est de donner à l'autre ce dont l'autre a besoin. C'est de donner ce qui va plaire à l'autre. Alors, si vous avez des enfants, vous êtes comme moi, et ils ont des styles de musique qui ont d'autres valeurs dans leur vie que dans la vôtre. Et je me rappelle une fois, je suis allé à la FNAC pour acheter un CD. Je suis allé dans un rayon où j'aurais jamais mis les pieds. Je dis, je veux ça. Et vous voulez ça, monsieur? Oui. C'est pour offrir. Oui, c'est pour offrir. J'ai ramené ça à la maison et pour son anniversaire, je dis, merci papa. Parce que, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai aimé. J'ai pas donné en démence comme certains papas qui ont un enfant de 2 ans et qui achète un train électrique pour lui, pour que le petit puisse jouer avec le train électrique. Très heureux. Non. On aime pour donner et aspirer au don. J'ai 5 minutes, c'est terminé. Donc, rechercher à l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Ce passage me semble dans le chapitre 13. Qui dit, verset 8, « L'amour ne sut comme jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car ce qui est partiel, c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiel que nous prophétisions. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui est de l'enfance. » Certains vont dire, mais maintenant, bon, il écrit, les prophéties, elles cesseront. Oui. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Le partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisions. Ils seront abolis. Mais dites-moi, est-ce que la connaissance est abolie? Parce que si la prophétie est abolie, cesser, si les langues ont cessé, la connaissance aussi. Et ce qui est parfait, certains vont dire, ce qui est parfait, c'est ça. Amen. Mais est-ce qu'avec la Bible aujourd'hui, toutes les églises arrivent à être en harmonie et en unité parce que ce qui est parfait est arrivé? Non. C'est sûr qu'un jour, il n'y aura plus de prophétie. Parce qu'on n'aura plus besoin de proclamer des choses qui concernent l'avenir. La prophétie, pour moi, il y a 2 aspects. Il y a de proclamer les vérités de Dieu et proclamer les choses pour l'avenir. Et il y aura toujours des proclamations de qui Dieu est. Il est. Les langues cesseront. On n'aura pas besoin. Parce que celui qui parle en langue, il dit des mystères. On n'aura plus besoin de dire des mystères parce qu'on veut connaître les mystères. Mais la Bible restera. Avec la Bible, nous avons toujours à mettre en accord avec des choses de base. Quelles sont les indications de la parole de Dieu sur ce que c'est les dons pour le peuple de Dieu? Si Jésus de Nazareth avait manifesté des dons après son baptême, vous avez remarqué que c'est quand il s'est fait baptiser que l'Esprit est descendu sur lui. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est intéressant. Après son baptême dans Luc chapitre 3, baptême de Jésus verset 21 à 23, tandis que le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit descendit sur lui d'une forme corporelle comme une colombe. Il vint du ciel une voix qui dit, tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Donc il y a le Père dans le ciel, il y a la manifestation de l'Esprit dans l'air, et puis le Fils dans l'eau.
Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Jésus, chapitre 4, verset 1, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté. J'ai 2 minutes. Donc, sa vie a vraiment changé quand il y a ce moment-là. Son ministère a commencé quand l'Esprit est venu sur lui. Et il a vécu des choses. Et si lui, il avait dit ces choses, s'il avait accompli des choses, on parle du Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons besoin par le Saint-Esprit. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et je vous enverrai un autre. » Donc, on voit ici l'importance qu'il y avait dans la vie du Christ de la présence de l'Esprit Saint, et on regardera la question des dons demain matin et demain après-midi.